Vous écoutez, on lit pour vous.
La jeunesse canadienne vire-t-elle à droite? Une chronique de Samuel Larochelle parue le 14 juin 2025 dans le magazine Fugue. On a longtemps cru que les jeunes transformeraient la société avec leurs préoccupations environnementales et leurs valeurs progressistes. Pourtant, la jeunesse canadienne dérive de plus en plus vers la droite. Commençons avec la pointe de l'iceberg. En étudiant 35 000 questionnaires remplis par des élèves du secondaire à travers la province, Gris Montréal a démontré que le niveau de malaise face à l'homosexualité avait bondi. L'étude démontre que 33,8% des jeunes auraient du mal à composer avec une amie lesbienne en 2024, contre 15,2% en 2017. Le pourcentage grimpe à 40,4% avec un ami gay. C'était 24,7% 7 ans plus tôt. On pourrait croire que les jeunes sont influencés par les politiciens, politiciennes et les médias anti-queer qui jettent de l'huile sur le feu de certains enjeux. Toilettes non genrées, spectacles de drague adaptés pour la jeunesse, droits des personnes trans et non-binaires, etc. En donnant l'impression à la population que nous voulons saccager la société, Yale transforme nos communautés en épouvantails pour détourner l'attention de l'inaction des puissants, puissantes dans les enjeux criants – environnement, itinérance, crise du logement, inflation, etc. Mais il y a plus. Politiquement, on observe un déplacement des jeunes vers la droite. Selon un sondage mené par Léger le 22 avril 2025, les conservateurs auraient obtenu 44% du vote des 18-34 ans, une progression de 21% par rapport à un sondage de la même firme mené le 24 janvier 2022. Des nuances s'imposent. Renaud Poirier-Saint-Pierre, l'ancien directeur de cabinet de Gabriel Nadeau-Dubois, a rappelé dans une lettre d'opinion ce printemps que les intentions de vote des jeunes sont difficiles à mesurer. Pourquoi? Parce qu'elles votent moins, parce que les méthodes choisies par les sondeurs les rejoignent moins et parce que la préférence exprimée dans un sondage ne se matérialise pas toujours en vote. Également, si le sondage de 2025 s'était traduit en vote, cela aurait représenté le choix des 18-34 ans qui votent et non de l'entièreté de ce groupe d'âge. Analysons maintenant la simulation électorale organisée auprès des ados et des enfants en avril 2025. Plus de 900 000 élèves dans 6 079 écoles de chaque province et territoire au pays ont dit à qui irait leur vote. Si le gouvernement avait été élu par les moins de 18 ans, le Parti conservateur aurait formé un gouvernement minoritaire avec 36,4% du vote populaire. Mark Carney aurait vu le Parti libéral récolter 31,9% du vote. Le Bloc québécois aurait obtenu 2,2%, les néo-démocrates 14,5% et le Parti vert 7,4%. Vous me direz que les personnes d'âge mineur ont le temps de changer, de s'informer, de développer leur sens critique et de modifier leurs valeurs. Pourtant, rien ne prouve qu'elles ne voteront plus pour les conservateurs. Comment expliquer ce mouvement? Pensons d'abord à l'inflation qui pousse souvent l'électorat vers une gestion plus conservatrice des finances publiques ou vers les partis qui prétendent pouvoir tout régler en faisant le ménage, même s'ils n'ont aucune compétence dans le domaine. La preuve, Donald Trump fait actuellement plonger l'économie américaine. Autres hypothèses? La mondialisation et l'arrivée de personnes immigrantes peuvent donner l'impression à certaines franges de la population de perdre leurs repères identitaires et les pousser à se replier sur elles-mêmes. Sans oublier certains hommes blancs hétérosexuels cisgenres, habitués de trôner au sommet de la pyramide sociale, qui se révoltent contre les queers, les femmes, les autochtones et les communautés culturelles parce qu'ils ont l'impression que nos quêtes d'égalité leur retirent quelque chose. Il existe aussi un clivage entre les hommes et les femmes. Selon l'analyse des sondages menés avant et après chaque scrutin provincial depuis 2007 par l'Étude électorale québécoise, les femmes de 18-29 ans penchent plus à gauche que les jeunes hommes. Puisque le virtuel occupe une place immense dans les vies des jeunes, il est intéressant de considérer que les algorithmes offrent du contenu et des chambres d'écho différents selon le genre. Pensons entre autres aux influenceurs masculinistes qui prônent le retour des femmes à la maison, des valeurs anti-féministes et anti-LGBTQ+, ainsi qu'une vision archaïque du mâle alpha, sans émotion, tout en muscles, pourvoyeur financier, ayant réponse à tous les problèmes de la famille. Comme si on assistait à un retour du balancier après des décennies d'ouverture des mentalités, à un ressac post-MeToo et à de nouveaux effets pervers de la pandémie. Plusieurs jeunes hommes séduits par les idées masculinistes sont, comme leurs aînés, confus quant aux définitions possibles de la masculinité. En plus, les jeunes de tous les genres viennent de traverser des années teintées par l'isolement social. En évoluant dans un environnement virtuel qui les confortait dans leurs idées plutôt que de les confronter à la différence, elles ont manqué de socialisation et semblent aujourd'hui submergées par l'anxiété. Chez plusieurs, le remède à ce mal-être est de s'accrocher à ce qu'ils connaissent, d'éloigner la différence, de rigidifier les frontières de leur monde et de chercher à garder la tête hors de l'eau en faisant couler les autres. Au fond, la réponse à la popularité de la droite chez les jeunes est, peut-être, de prendre soin d'eux. C'était « La jeunesse canadienne vire-t-elle à droite », une chronique de Samuel Larochelle parue le 14 juin 2025 dans le magazine Fugue.
Wow! Un texte de Raphaël Germain, paru le 30 mai 2025 dans La Presse. Ils éclosent, en même temps que les jonquilles et les trilles sauvages, juste avant les premiers lilas, quand les clochettes des muguets tirent encore sur le vert. On entend d'abord un « wow », puis deux, des exclamations de ravissement qui s'éparpillent le long des berges, toute une gamme de « o » et de « a », des regards et des mamans, à croire que ce ne sont pas des oisons qui sont sortis des œufs couvés par les bernaches, mais des bulles d'émerveillement. C'est qu'elles sont extrêmement mignonnes, ces petites boules de duvet et de vie qui se dandinent derrière leurs parents attentifs. Elles savent nager gracieusement alors qu'elles viennent tout juste de sortir de leur coquille. Et elles émettent un piaillement d'une douceur à fendre le roc, le béton et les cœurs les plus endurcis. Elles sont d'un jaune qui tire presque sur le vert durant les premiers jours et qui virera doucement au gris dans les semaines à venir. Elles sont maladroites et câlines. Elles se chamaillent et se réfugient sous les ailes d'un de leurs parents quand il pleut. Bref, elles ont vraiment tout pour plaire, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles ravissent ainsi les passants. N'empêche que l'ébahissement, souvent presque comique, qui accompagne la découverte des petits, en dit long sur notre rapport à la nature et à ses beautés. Comme si nous en avions été tellement privés, que la vue d'un bébé oiseau nous semble une occurrence sidérante, limite peu croyable. Les « Oh my God » qui retentissent ici et là ne mentent pas. Ils parlent du délice de voir du beau, mais aussi de l'étonnement face à ce qui était presque inconcevable. Ces bébés sont une surprise exquise, un cadeau inattendu, une gentillesse que personne n'avait demandée, mais dont visiblement tout le monde avait besoin. Se pourrait-il que dans un monde où la dopamine est manufacturée et pompée à petits coups de clic et de swipe, nous soyons en manque de réel? Instagram déborde de vidéos loufoques et adorables de canetons qui piaillent et qui trébuchent, de bébés animaux à plumes et à poils qui exude la vulnérabilité et la mignonneté et font des choses extraordinaires. Mais a-t-on déjà vu quelqu'un crier « Oh my God » en regardant l'écran de son téléphone? L'antithèse est facile. Et elle a dû être écrite ailleurs bien des fois. Mais se pourrait-il qu'à force de connexion, nous soyons de plus en plus déconnectés? Les plateformes en ligne nous promettent mille émerveillements, un flot ininterrompu d'émotions fortes et vives, et elles livrent, c'est toute une armée de visionnaires et de grands talents qui est mise à profit pour jouer sur nos cordes sensibles, une partition effrénée et incessante. Et voilà que les frissons foisonnent et qu'on se retrouve l'œil humide devant une bande-annonce qui a su faire jaillir une émotion manufacturée et pourtant bien réelle. On pourrait en déduire que la nature, à côté de ces formidables machines, a de bien petits moyens. Mais envoyez un oison dans le décor ou faites apparaître entre les branches d'un cèdre les yeux doux d'un chevreuil, et nous voilà éblouis d'un éblouissement neuf et profond. Les adultes sortent leur téléphone et attirent l'attention des petits. Ils veulent que leurs enfants profitent de ce spectacle dans lequel on devine plus ou moins consciemment qu'il y a une leçon, un apprentissage. Et les plus jeunes ne se font pas prier, ça crie de joie dans les rues et ça montre de ses petits doigts les bébés d'une autre espèce qui pataugent, juste là, devant eux, dans le même espace-temps. Ils veulent se les approprier, souvent, mais surtout les protéger et les aider, même s'ils finissent parfois par leur faire plus de tort que de bien avec leur affection possessive et sincère. Tous les enfants, presque sans exception, sont spontanément amoureux de la nature. Mais dans les écoles qu'ils fréquentent, et où on leur apprend qu'elle est assaillie de toutes parts et en grand danger, on leur enseigne rarement l'émerveillement, cette composante pourtant essentielle à toute pensée écologiste réellement vibrante. On leur répète que le monde est en feu, mais faute de temps et de moyens, on ne les emmène pas à sa rencontre, dans ces lieux pas si lointains où il renaît chaque printemps et se dandine en picossant. Ce contact avec des éclats de clarté vivante ne serait peut-être pas un luxe dans cette époque où le gris des nouvelles et la lueur bleue de nos écrans se disputent constamment notre attention. On ne changera pas le monde avec des poussins. Mais il est encore possible d'adoucir et d'approfondir notre rapport avec lui, un « wow » à la fois. C'était « Wow », un texte de Raphaël Germain, paru le 30 mai 2025 dans La Presse.
Réapprendre à être père ici. Paternité et immigration. Un texte de Suzanne Colperon, paru le 15 juin 2025 dans La Presse. Comment devient-on père dans un pays où les repères sont différents, où les attentes ont changé? Trois hommes racontent comment leur paternité s'est transformée ici. Saïd Bergel, 60 ans. Fatih Diambang, 33 ans, et Morike Kaloka, 51 ans. Tout le monde éduque. En Algérie, je n'ai jamais entendu mon père me dire « je t'aime ». Installé à Rouyn-Noranda depuis 2011, Saïd Bergel a dû, comme il le dit lui-même, réapprendre à être père. Là d'où il vient, être papa, c'est surtout pourvoir aux besoins des enfants. Au Québec, le rôle s'est déplacé. J'ai appris à dire à mes filles « je t'aime », à faire des câlins, à préparer à manger avec elles, dit-il simplement. Psychologue, chercheur et professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Saïd Bergel s'est spécialisé dans la paternité en contexte migratoire. C'est un champ très peu exploré. Il y avait beaucoup de travail à faire. Et en plus, ça rejoint ce que j'ai vécu. Pourquoi le rôle du père change-t-il autant ici? Pour lui, c'est autant une question de structure familiale que de culture. Les parents québécois sont très proches de leurs enfants. Mais ça ne veut pas dire que les papas d'ailleurs ne le sont pas. Là-bas, il faut tout un village pour éduquer un enfant. La sœur, la tante, la grand-mère, la voisine, tout le monde éduque. Il marque une pause. Au Québec, on est plus individualiste. Alors, on est obligé de s'occuper de sa famille, d'être très proche de son épouse, de partager les tâches, d'être très proche de l'enfant. A-t-il trouvé cette adaptation difficile? Oui, parce que j'avais imaginé un modèle d'enfant qui se rapprochait de celui qu'on trouve en Algérie. Mais j'ai vu que mes filles épousaient la culture québécoise, parlaient québécois, mangeaient québécois. Il a fallu faire des négociations ou même des deuils pour accepter que mes enfants ne seraient pas comme j'ai été, moi, ou comme un enfant en Algérie. Le choc de l'isolement. Fatih Diambang est arrivé du Sénégal en 2019 après un passage en France pour faire une maîtrise en médiation interculturelle à l'Université de Sherbrooke. Il vit à Longueuil avec sa conjointe québécoise et leur fille de 1 an. Est-il le père qu'il aurait été au Sénégal? Non, il y a plein de manières de faire qui sont différentes, dit-il. Avec ma conjointe, on trouve tout le temps des compromis. Un exemple? Elle voulait que le bébé dorme seul dans sa chambre. J'ai dit, ça ne me rassure pas. Est-ce qu'on peut trouver une autre manière? Acheter un berceau et le mettre dans notre chambre? Finalement, elle a été d'accord. Là-bas, après la naissance, ce sont les tantes, les grand-mères. Tout le monde est là. Ici, on est juste 2, ajoute-t-il. Fatih travaille aujourd'hui au regroupement pour la valorisation de la paternité. La persévérance. Morike Kaloka a quitté la Côte d'Ivoire il y a moins de 2 ans avec sa conjointe et leurs 5 enfants. Il travaillait comme enseignant au secondaire. Il aura fallu plus de 10 ans de démarches avant d'obtenir la résidence permanente. Peu après son arrivée au Québec, il apprend que son glaucome était en phase terminale. Il perd progressivement la vue. « Je ne l'ai pas encore perdue, mais je suis en train de la perdre. C'est irréversible, » dit-il. Aujourd'hui, il est retourné aux études en ressources humaines. A-t-il dû faire des sacrifices? Oui, dans mon pays, j'étais un cadre avec tout ce qui va avec. Je vivais bien. J'ai décidé de brader tout ça, d'aller dans l'inconnu. Ce qui l'anime, c'est l'avenir de ses enfants. Et une valeur, la persévérance. Il faut amener les enfants à comprendre que tout peut arriver dans la vie. Parce que c'est maintenant qu'ils me connaissent dans cette situation. Je suis à la maison, je ne travaille pas, je vois moins bien. Mais je veux qu'ils sachent que, malgré la difficulté, ça ne doit pas être un frein à la réalisation de vos objectifs. Et d'ajouter, chez nous, on dit « c'est mieux d'avoir un enfant courageux qu'un enfant intelligent ». Entre deux mondes. Quand on élève ses enfants ailleurs, que garde-t-on de son passé et qu'est-ce qui s'efface sans qu'on le veuille? Pour Saïd, cela passe par les gestes et les choix du quotidien. On a veillé à ce que nos filles gardent un peu la culture algérienne. Ma grande fille fait du couscous, des plats algériens, des gâteaux. Elle aime bien s'habiller en algérien pour certaines occasions, pour montrer qu'elle a une culture d'origine. Fatih a voulu que le prénom de sa fille reflète cette double origine. Elle s'appelle Aissatou Océane. C'est un nom composé. J'ai donné le prénom de ma mère et ma femme a aussi choisi un prénom. Chez tous les trois, une valeur revient avec force, celle de la famille. J'en parle tout le temps avec ma femme, dit Fatih. Pour moi, c'est très important d'être en famille, de soutenir la famille. On m'a toujours appris que tu ne peux pas être heureux si un membre de ta famille est malheureux. La famille est très importante, renchérit Saïd. C'est une valeur centrale dans notre culture d'origine. À leur manière, des pères d'ici. Tous parlent d'un apprentissage constant, d'une fierté aussi. Dans leur cas, cette adaptation s'est faite avec résilience. Mais ils savent que pour bien d'autres, le chemin reste semé d'obstacles. Reconnaissance des diplômes, isolement, précarité. Morike Kaloka, lui, veut surtout que ses enfants retiennent une chose. Il faut se battre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ils ne sont pas devenus les pères qu'ils auraient été à Dakar, à Abidjan ou à Alger. Ils sont, à leur manière, devenus des pères d'ici. En savoir plus. Enquête québécoise sur la parentalité, ISQ, analysée par le Regroupement pour la valorisation de la paternité. 26 % pourcentage des pères immigrants qui vivent dans un ménage à faible revenu, comparativement à 8 % des pères nés au Canada. 59 % pourcentage des pères immigrants qui déclarent que leur entourage est peu ou pas disponible pour les aider dans leur rôle parental. C'était « Réapprendre à être père ici ». Paternité et immigration. Un texte de Suzanne Colperon, paru le 15 juin 2025 dans La Presse.
Ce qu'il faut savoir sur le guide Michelin qui arrive au Québec. Un texte d'Annabelle Caillou paru le 13 mai 2025 dans Le Devoir. Le prestigieux guide Michelin débarque enfin au Québec. L'institution française qui récompense les meilleures tables du monde dévoilera jeudi les premiers étoilés de la province. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur l'emblématique guide gastronomique. Les origines du guide Michelin. Publié pour la première fois en 1900. Le guide Michelin était alors un livret pratique distribué gratuitement aux automobilistes français. Son objectif, les inciter à prendre la route pour stimuler les ventes de pneus de l'entreprise du même nom. La distribution d'étoiles pour récompenser les restaurants de grande qualité n'a commencé qu'en 1926. Le guide s'est véritablement spécialisé en 1933 avec la création du métier d'inspecteur. Le livret rouge est devenu une référence mondiale en matière culinaire. Il est aujourd'hui présent dans une quarantaine de pays. Que signifient les étoiles? Les étoiles Michelin sont les plus hautes distinctions accordées par le guide. Une étoile récompense une cuisine d'une grande finesse, deux étoiles une cuisine d'exception et trois étoiles une cuisine unique considérée comme de l'art. Avec le temps, l'institution française a créé d'autres distinctions, comme le Bib Gourmand en 1997. Cette récompense est attribuée aux restaurants de haut niveau qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Depuis 2020, l'Étoile verte récompense les établissements modèles en termes de gastronomie éco-responsable. Comment obtenir une étoile? Des inspecteurs anonymes, se faisant passer pour des clients lambda, testent des centaines de restaurants chaque année et à plusieurs reprises pour déterminer s'ils répondent aux critères de qualité du guide. ils suivent 5 critères universels. La qualité des produits, l'harmonie des saveurs, la maîtrise des techniques, la personnalité du chef telle qu'elle s'exprime dans sa cuisine et, tout aussi important, la régularité dans le temps et la cohérence de la carte dans son ensemble, indique le site du guide. Les étoiles étant décernées annuellement, les équipes réévaluent continuellement les restaurants étoilés pour s'assurer de leur constance. Un établissement peut donc perdre une étoile. En 2020, le retrait de la 3e étoile du restaurant de Paul Bocuse, décédé 2 ans plus tôt, avait d'ailleurs suscité beaucoup de critiques. Depuis les années 2000, il n'est pas rare de voir des chefs critiquer le guide et renoncer à leur étoile en geste de protestation ou pour se tenir loin de la pression qu'elle génère. En 2003, le chef français Bernard Loiseau s'est suicidé parce qu'il aurait appris que son restaurant, la Côte d'Or, risquait de perdre sa 3e étoile. Le guide Michelin au Canada. La Bible gourmande est arrivée au Canada en 2022, d'abord à Toronto, puis à Vancouver. À ce jour, 10 restaurants de Vancouver ont obtenu une étoile et 15 autres figurent dans la sélection Bib Gourmand. À Toronto, 15 établissements ont une étoile et un restaurant, le Sushi Masaki Saito, en a décroché 2. 22 autres adresses sont répertoriées par le Bib Gourmand. Et maintenant, au Québec. L'arrivée du guide à Toronto et à Vancouver a incité une 15aine de restaurateurs de Québec à demander au maire de la vieille capitale d'entamer des démarches auprès de Michelin. L'institution collabore habituellement avec les organismes touristiques des villes et régions où elle s'installe. 3 ans plus tard, le projet prend vie. L'Alliance de l'industrie touristique du Québec sera la partenaire marketing et promotion du guide ici, bénéficiant notamment de 450 000 $ sur 3 ans de développement économique Canada pour les régions du Québec. Habituellement, le guide Michelin débarque dans une ville avant de s'intéresser à une région complète. C'est donc un fait rare ici. Les inspecteurs ont visité des restaurants de toute la province. Les inspecteurs ont jugé que la scène culinaire de la province du Québec était mûre au-delà des principales villes, nous a indiqué dans un courriel l'inspecteur en chef anonyme du guide en Amérique du Nord. C'était « Ce qu'il faut savoir sur le guide Michelin qui arrive au Québec », un texte d'Annabelle Caillou paru le 13 mai 2025 dans Le Devoir.